Catherine Lafrance, bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Est-ce que je dis auteur ou autrice?
On me pose toujours la question puis j'ai jamais de bonne réponse. Je ne sais pas. Écrivain, écrivaine, auteur, autrice, j'ai aucune importance.
OK, alors mais vous écrivez.
Oui.
Hein, Catherine?
Oui.
Et vous écrivez de plus en plus. Vous venez nous présenter votre plus récent ouvrage, Le dernier souffle est le plus lourd. Et Catherine, mais vous la connaissez parce qu'elle est journaliste. Elle a été journaliste, mais la journaliste est toujours en vous, ça paraît.
Oui, oui, tout à fait. C'est toujours là en moi. D'ailleurs, je pense que ça se voit, ça se ressent dans vos écrits.
Absolument. D'ailleurs, Michel Duquesne, c'est la deuxième enquête de Michel Duquesne qui est un journaliste d'enquête.
Oui.
Et on sent que celle qui signe le texte connaît son dossier, a fait ses recherches. Et je voulais quand même vous présenter aussi en tant qu'autrice, on vous doit les romans « La saison froide ». Le retour de l'ours, jusqu'à la chute, vous avez aussi participé au recueil de nouvelles Crime au musée, On tue la une, Face à face. En 2022, vous avez publié L'étonnante mémoire des glaces, la première enquête de Michel Duquesne. Et puis donc, on vous a connu comme journaliste, chef d'antenne, reporter, animatrice. On a déjà travaillé ensemble
oui.
au 98.5 il y a quelques années.
On s'est retrouvés derrière des micros comme ça, et là,
mais
dans une autre situation pour
oui,
une autre station.
Oui, une amitié est née et un rapport professionnel aussi très, très agréable. Vous pratiquez donc le métier d'écrivaine. Comment c'est arrivé cette envie d'écrire des histoires, Catherine?
Bien, je pense au cours d'une espèce de, passez-moi le terme anglophone, midlife crisis. C'est le moment dans la vie, là, où on se dit, bon, je travaille, c'est bien, ma carrière va bien, tout va bien, mais est-ce que je sais faire autre chose de ma vie? Est-ce que je veux faire ce métier-là toute ma vie? J'ai adoré mon métier de journaliste, ça m'a passionnée. Donc, j'étais pas dans une grosse crise existentielle, mais j'étais dans un moment de ma vie, il y a plus d'une dizaine d'années, où je me disais, suis-je capable de faire autre chose? Pourrais-je faire autre chose? Pourrais-je faire autre chose éventuellement? Et là, je me suis dit, bien, il me semble que j'aimais ça écrire, moi, avant d'être happé par ce métier, ce si beau métier de journaliste. Et si j'essayais encore? Alors, je suis retournée aux études. Je suis allée à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, en scénarisation, une excellente école qui m'a appris vraiment les bases de la dramaturgie. Et surtout, ce que ça m'a appris, c'est qu'écrire pour la télé, c'est extrêmement difficile parce que faire de la télé, ça coûte très cher. Donc, je me rappelle très bien d'une phrase d'un de mes professeurs qui disait « Si tu veux 12 chameaux dans ta scène, tu l'auras pas pour la télé. Écris un roman. » C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai jamais écrit de scène avec 12 chameaux, mais le plus important là-dedans, c'est que j'ai compris que...
Il y a une liberté.
Il y a une liberté, tout à fait, et on peut décrire et on peut jouer avec son imagination, une liberté de création. C'est pas qu'il y a pas de liberté à la télé, mais c'est qu'il faut respecter des budgets.
Oui, surtout ici au Québec. Il y a une équipe aussi.
Oui,
vous
n'êtes
pas la seule maître...
À bord.
À bord, tout à fait.
Alors voilà comment j'ai commencé à écrire. Et une autre phrase m'a étonnée à ce moment-là. J'ai parlé avec ma mère à ce moment-là, puis j'ai dit, il me semble que ça fait longtemps que j'aime écrire. Et là, elle me dit, mais tu te souviens pas, t'as toujours aimé écrire. Même quand t'étais petite, t'écrivais tout le temps, t'écrivais partout. Alors, je pense que c'était en moi quelque part. Mon métier de journaliste m'a détourné de ma route à la base pour mon plus grand bonheur. Et j'y suis revenue.
Mais qu'est-ce que vous écriviez avant d'être journaliste?
Bien, j'ai écrit des nouvelles qui n'ont jamais été publiées, que je n'ai jamais fait lire à peu près à qui que ce soit.
Avez-vous gardé?
J'en ai gardé une. C'est des cris d'adolescents. C'est pas super bon, mais bon, on verra bien dans l'avenir. Mais sinon, j'ai un journal comme bien des adolescentes et j'aimais lire plus que tout.
Ouais.
Donc ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. J'ai adoré lire aussi loin que je me souvienne. Dès que j'ai appris à lire, j'ai aimé lire. Donc j'ai toujours été proche de la littérature. C'est juste que là, je peux m'y adonner.
Et Catherine, l'envie d'écrire des polars, ça s'est manifesté quand, comment?
Ça s'est manifesté grâce à un ami, Richard Mignot, pour ne pas le nommer. Et je le nomme parce que c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu du polar au Québec. C'est un expert, c'est un critique, c'est un directeur littéraire. Lui a lu mon troisième roman, Jusqu'à la chute, puis il a dit... Il me semble qu'il y a de la graine de polar là-dedans. Ça
ne
tenterait pas d'essayer. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, je suis tombée là-dedans et là, ça a été le cauchemar. Le cauchemar.
Ah, le cauchemar!
Ah oui, parce que écrire un roman, c'est difficile. Écrire un roman, écrire un polar, pour moi, c'est la difficulté à la puissance 10. parce qu'il y a des règles précises. Alors moi, je me suis dit, OK, mais moi, il faut que j'apprenne les règles, même que je veuille les utiliser, que je veuille les contourner ou non, je dois les connaître.
Vous ne les aviez pas apprises à l'UNICE, là?
Pas les règles du polar, non. Ça, c'est un autre genre. J'ai recherché, j'ai travaillé, j'ai étudié, je suis allée vers ce monde-là et là, j'ai commencé à écrire mon premier tome. Je l'ai écrit à peu près 18 fois. Ah, j'ai recommencé, j'ai tout changé et ça a fini par débouler, mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Quand j'ai vu, et là, j'ai commencé à écrire le deuxième, et quand j'ai vu la réaction au premier, qui a été assez bonne, je dois dire, je me suis dit, OK, très bonne. Il y a quelque chose qui va bien, je continue là-dedans. Puis là, et là, mes personnages étaient installés. Puis entre-temps, j'ai écrit des nouvelles avec ces personnages-là aussi. Donc, là, mon univers est installé, puis je savais qu'il fallait que ce soit un univers qui dure longtemps, puisque je savais que ça allait être une série, au moins une trilogie, voire une série, et que donc j'allais réutiliser mes personnages, que j'allais replonger dans cet univers-là. Et là, bien évidemment, le deuxième a pris moins de temps à écrire.
Le cauchemar n'était pas au rendez-vous.
Non, c'est pas le cauchemar, c'est pas facile. Mais c'est plus le cauchemar, parce que là, je pense que j'ai compris comment ça fonctionne.
Vous étiez en terrain un peu plus connu.
Oui, tout à fait, parce que dans le polar, il y a toute la gestion des indices qu'il faut maîtriser. Il faut dire des choses.
Mais pas trop.
Pas trop. Il faut les éparpiller, semer ça tout le long du récit. Mais en même temps, il faut qu'à la fin, et ça c'est mon but là, que les lecteurs à la fin se disent « Ah zut, j'ai pas trouvé qui était le méchant, mais j'aurais pu. » Quand j'y pense maintenant, je me dis que j'aurais pu parce que les indices étaient là au fil de la lecture.
Parce que si le lecteur ou la lectrice trouve en partant qui a fait telle chose, pour vous,
c'est un échec. Ben oui, parce que la personne n'aura plus d'intérêt à aller jusqu'au bout du récit. Et si c'est trop difficile, la personne perd intérêt aussi, parce que ça, on
s'en
peut larguer, pas impliqué. Donc, il faut que je l'amène avec moi. Il faut que je lui dise, regarde, voici, c'est un indice, mais pas trop appuyé. Il faut que ça soit assez subtil, mais pas trop non plus. Donc, c'est ça, la subtilité de la gestion des indices. Puis moi, ça me fascine, là, ce travail-là. Je trouve ça intéressant.
En tant qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice, j'imagine.
Oui, absolument, absolument. De polar. Donc, parce que quand je lis des polars, je suis toujours à l'affût des indices, bien sûr. Mais il y a un travail là qui est vraiment intéressant à faire et qui est vraiment difficile parce que c'est pas une science. Il faut y aller avec le jugement et la personnalité.
Oui.
Parce que moi, je sème mes indices comme je le pense, comme je pense que le lecteur veut les recevoir et comme j'aime les recevoir quand je suis une lectrice de polar. Mais est-ce que ça plaît à tout le monde? Ça, je sais pas. Est-ce que ça convient à tout le monde? Je sais pas non plus.
Mais justement, est-ce qu'il y a une équipe? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent votre texte avant qu'il soit publié? Oui, il y a un travail d'édition qui est fait, là, mais est-ce qu'il y a des regards extérieurs pour... Non, là, ici, là, tu nous perds ou ici, c'est trop évident ou...
Oui, j'ai, je dirais, deux bêta-lecteurs en général. Donc, ce fameux Richard Mignot, puis je le nomme encore parce que je lui lève mon
chapeau,
qui me donne un coup de main très souvent, qui lit mes manuscrits avant que je les dépose à ma maison d'édition, qui me dit « c'est bon, c'est pas bon, ça marche pas, ça, j'ai pas compris, ça, c'est bon. » Et mon conjoint qui regarde, qui a vraiment un œil de lynx aussi parce que c'est un lecteur, puis ils vont me dire « ben là, je comprends pas. » Là, si je me dis « s'il comprend pas, c'est parce que le lecteur, en général, va pas comprendre, ça marchera pas.
»
Et ensuite, bien, il y a tout le processus d'édition qui commence. Quand je dépose mon manuscrit, après ces deux lectures-là, bien là, il y a mon éditrice, ma directrice littéraire qui lit. Ensuite, il y a des réviseurs. Puis souvent, je travaille avec une réviseur qui est extrêmement exigeante et qui me dit « j'ai rien compris » ou qui me dit « ça fonctionne absolument pas ». Puis moi, je veux que les gens soient exigeants et sévères quand ils lisent le manuscrit parce que j'aime mieux qu'eux me disent ça en amont plutôt que ça soit publié puis que les lecteurs... Et bon, et après, il y a tout ça. Donc, c'est tout un processus. Quand je dépose mon manuscrit, après, j'en ai pour des mois à me faire critiquer, varloper, questionner.
Alors, faut être ouvert à la critique. Si on veut avancer, si on veut offrir le meilleur livre possible, tout à fait.
Oui, je le pense.
Et Catherine, sans rien divulgâcher, évidemment, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce nouveau... Est-ce qu'il faut lire la première enquête de Michel Duquesne avant d'apprécier la deuxième?
Avant d'apprécier, non. Si on veut mieux apprécier, oui. Donc, ce n'est pas nécessaire parce que c'est une enquête bouclée, mais c'est sûr que le premier Polar, c'est là où on se plonge dans l'univers. Donc, si on veut mieux apprécier l'évolution des personnages, il faut savoir d'où ils sont partis. Donc,
d'ailleurs, il y a des références au premier.
Exactement.
Hein?
Alors, moi, je le conseille. Et ceux qui ont lu le premier, qui ont lu le deuxième, étaient contents de voir l'évolution des personnages. C'est plus intéressant. Donc, qu'est-ce que ça dit, ce roman?
Ça en dit beaucoup.
Oui, ça en dit beaucoup. Mais en fait, il y a deux grandes histoires parallèles. La première, c'est l'enquête de Michel Duquesne, et c'est une enquête sur des gens qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir, qui, parce qu'ils ont de l'argent et du pouvoir, ont des contacts, ont des amis haut placés, qui eux-mêmes ont de l'argent et du pouvoir. Et ces gens-là, ben, tirent les ficelles de plusieurs industries. Dans ce cas-ci, c'est l'industrie pharmaceutique. Mmh. Et moi, je pense que c'est grave parce que l'industrie pharmaceutique met sur le marché des médicaments. Je dis pas que l'industrie pharmaceutique est corrompue, absolument pas ça, mais dans mon roman, elle l'est. Et là, met sur le marché des médicaments qui seront pas nécessairement efficaces. Ou dans ce cas plus précis, des tissus chirurgicaux employés lors de certaines chirurgies. Mais c'est aussi l'histoire de la conjointe de Michel, qui a sa quête personnelle, son histoire de vie personnelle et qui recherche des gens qui ont attaqué ses parents dans le passé. Je ne vous donne pas plus d'indices, mais son histoire à elle et celle de son conjoint se recoupent là-dedans. Et là, on entre de plein pied dans la quête d'Odile, la conjointe de Michel, parce que je veux en faire un personnage important aussi, Odile. Mm-hmm. C'est pas un accessoire, comme dans bien des films, comme dans certains romans policiers, certains romans généraux où les femmes sont des faire-valoir, sont la blonde d'eux, la conjointe d'eux. Ce n'est pas que ça. Et Odile a sa vie, elle a sa colonne vertébrale, son métier. Mais je voulais que les histoires se recoupent parce que je veux pas en faire quelque chose qui... Il faut que ça soit...
Dilué, éclaté.
Exactement. Ouais, exactement. Ouais.
Et donc, on baigne dans le milieu de la santé, des pharmaceutiques, de la politique, il y a des morts, il y a de la corruption, c'est tout un édifice. Est-ce que vous travaillez avec un plan pour écrire votre polar?
Un plan très précis, très développé, sinon j'y arriverais pas. Puis ça, je dois à l'INIS, où j'ai étudié, de m'avoir appris ça, parce qu'en télé, on prépare ce qu'on appelle des bibles. Des bibles, c'est le document de départ pour une série télévisée, par exemple, dans lequel on a des fiches de personnages, on développe les personnages, on développe certains épisodes, on explique les courbes dramatiques, c'est-à-dire d'où part un personnage, où il arrive. Et il y a ce fameux scène à scène, dans un document, dans une bible pour une série télé, c'est une scène à la fois et ce qui relie les scènes entre elles. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une bible. Donc, moi, je fais ça pour mon roman. J'ai gardé cette méthode de travail-là. Alors, je fais vraiment un scène à scène. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le premier chapitre? Et scène par scène, qu'est-ce qui se passe? Que ressentent les personnages? Que vivent-ils? Comment se sentent-ils?
Êtes-vous dans une pièce entourée de grand pan de papier avec les noms des personnages, les lieux?
Je pourrais, mais dans les faits, non, parce que je le fais sur ordinateur. Mais il y a des logiciels là, qui dans lesquels on retrouve un peu cette méthode-là. Mais j'ai des amis qui font ça, puis je trouve ça extraordinaire. Mais bon, moi, j'aime mieux transporter mon ordinateur partout où je vais, c'est plus simple.
Chacun sa façon. J'imagine, c'est plus léger aussi. Est-ce que je me demandais si vous traîniez un petit carnet noir là, à la manière de Michel Duquesne pour ramasser toutes les informations, parce que il y a plein de faits. Oui, il y a de la fiction, mais il y a une recherche, j'imagine, qui est faite en amont là, quand vous parlez justement de santé, de produits pharmaceutiques. D'ailleurs, le Dacron, est-ce que ça existe pour vrai?
Oui, ça existe pour vrai. C'est un véritable produit dont on se sert pour remplacer, par exemple, une partie d'aorte lors d'une intervention chirurgicale sur une aorte abdominale, on va dire. Là. Et là, j'ai l'air de m'y connaître, mais je m'y connais absolument pas.
Vous avez quand même demandé conseil à des personnes qui s'y connaissent.
J'ai fait une entrevue avec un grand spécialiste de Montréal, un chirurgien spécialisé de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et je remercie d'ailleurs en passant ces gens-là qui me donnent des entrevues. Et ça, c'est mon réflexe journalistique là, qui ne m'a pas quitté, comme vous le disiez au début, Hélène. Et je fais des entrevues avec des gens qui s'y connaissent infiniment mieux que moi et qui ont la générosité de me donner plein d'informations. Après, j'ai l'air bien intelligente, là, mais c'est eux qui sont derrière ça.
Bien, il y a de l'intelligence aussi dans ce que vous faites, Catherine. Soyez pas trop modeste, là, mais oui, vous êtes très généreuse dans vos remerciements, d'ailleurs. On peut les lire à la toute fin, entre autres Gilbert Gosselin, chirurgien cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal et à l'hôpital Pierre-Legardeur. Et puis, il y en a d'autres, en tout cas.
Oui, et les gens m'épatent toujours parce que je leur dis, quand je leur demande une entrevue, là, je leur envoie un petit message, puis je leur dis « ça vous donnera absolument rien d'autre » que ma reconnaissance éternelle, c'est tout. Et ces gens-là, comme dans le cas du médecin, de ce médecin, de ce chirurgien, vous imaginez à quel point c'est occupé, un chirurgien cardiaque?
J'imagine,
oui. Fini, ça a été très long, on a mis des semaines avant de pouvoir se parler. Il a fini par me dire, j'ai une demi-heure à vous consacrer pendant que je mange, fait que je vais vous parler la bouche pleine. Finalement, là, il m'a donné tellement d'informations, ça a pris plus qu'une demi-heure, il a été d'une générosité extraordinaire. Et les gens qui je parle sont comme ça en général.
On les remercie, évidemment, parce que sans ça, le travail serait beaucoup plus ardu. Ce serait impossible.
Et ça ne serait pas plausible. Ouais. C'est important pour moi que ce soit plausible. Cette histoire-là que je raconte ne s'est jamais déroulée, mais elle pourrait ou elle aurait pu se dérouler.
C'est important qu'on y croit.
Absolument.
Et donc, Le dernier souffle et Le plus lourd, c'est un titre accrocheur. Vous êtes bonne, je trouve, pour trouver des bons titres. Est-ce que vous faites un exercice particulier pour trouver le bon titre de votre histoire, celui qui va accrocher le lecteur et celui qui va être en lien avec l'histoire?
Oui, je fais des recherches, des expressions, des dictons, il y a des mots auxquels je pense, puis là, après, je fais plein de recherches, j'essaie de trouver des phrases, j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Dans l'étonnante mémoire des glaces, je suis tombée sur un site du gouvernement canadien, un site scientifique qui parlait de la mémoire des glaces, du moment où ils vont chercher des carottes de glace, des échantillons dans la glace, et eux appellent ça la mémoire des glaces parce que ça contient plein d'informations sur les années, même les siècles passés, la glace. Donc là, je savais que j'avais mon titre. Le dernier souffle est le plus lourd. Je voulais exprimer quelque chose sur le dernier souffle. Puis là, c'est un peu imagé. J'ai fait appel à mon imagination, un peu de poésie, en me disant que le dernier souffle, c'était quand même celui qui était le plus long. C'est le dernier souffle qu'on pousse avant de mourir. Et là, j'ai fait des recherches sur les gens qui meurent comme ça de maladies dues à une condition cardiaque. Et effectivement, le dernier souffle est souvent très, très long, parce que c'est là où les poumons se vident. En tout cas, je vous épargne tout le détail, mais tout ça vient de quelque part. Et c'est très drôle parce que souvent, je trouve de la poésie dans des sites scientifiques ou des explications scientifiques. Donc,
ça peut être poétique, la science, oui. Et vous parliez du personnage de la conjointe de Michel Duquesne, c'est Odile.
Oui.
Ça a été le personnage le plus plaisant à construire et le personnage le plus peut-être difficile qui vous a donné du fil à retordre, ça serait lequel?
Celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, oh, ça, c'est intéressant comme question. Franchement, je ne sais pas. J'aime mes personnages, je les aime tous, même les méchants, même les... Et ça, c'est la base aussi. Il faut les aimer. Ouais. Il faut les défendre. Hein?
Oui.
Il ne faut pas juste que les méchants soient...
Même s'ils ne sont pas aimables.
Même s'ils ne sont pas aimables, il faut comprendre pourquoi ils ne le sont pas. Alors, ben, ils me donnent tous du fil à retordre parce que j'essaie de tous les rendre vivants, donc je travaille beaucoup sur leur... J'appelle ça leur colonne vertébrale, là. Il faut que ça se tienne.
Oui, leur personnalité aussi. Il ne faut pas qu'ils parlent tous le même langage.
Exactement. Ouais. Mais à partir du moment où, à un moment donné, je les sens. Genre, je me sens de guillemets, là. Je commence à les créer, je commence à les bâtir, puis là, je le sens. Ça commence à être réel dans ma tête. Alors là, ils ne me donnent plus de fil à retordre. Ils commencent à être vrais dans ma tête. Appelez ça de la folie si vous voulez, là, mais ils commencent à vivre dans ma tête. Puis là, je sens que je les ai, puis je les vois, puis je les imagine, puis je les entends. Donc là, ça devient, entre guillemets, relativement facile là, de les faire vivre.
Vous les connaissez de plus en plus, là, parce que vous en êtes à votre deuxième enquête, la deuxième enquête de Michel Duquesne. Il y en aura une troisième. Vous dites que vous parlez de trilogie. Est-ce qu'il y en aura plus que trois?
Bien là, je voulais au moins une trilogie. J'ai dit ça avant de savoir comment ils allaient être reçus, mes deux premiers. Mais là, j'avance tellement que je commence à avoir des idées. Là, je travaille sur le troisième. Ça, c'est un scoop, là, je vous l'annonce. Je travaille sur le troisième. C'est bien avancé. Puis c'est sûr que là, je commence à avoir des idées de quatrième, de cinquième.
Ah,
je
vais
peut-être pas m'arrêter à une trilogie.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme plusieurs auteurs de polars.
Oui,
hein?
Oui. Mais moi, j'aime ça lire des séries de polars. Oui. J'aime les personnages récurrents. Alors,
on est content de les retrouver.
Oui, c'est ça. Je fais le pari que les gens aiment ça.
Quel est votre auteur ou votre autrice préférée de polars?
De polars? Des grands classiques. Enig Mankell. Je cite toujours Enig Mankell, Michael Connelly.
Des géants.
Au Québec, Roxane Bouchard, qui a le don de décrire l'humain de façon extraordinaire, avec une sensibilité extraordinaire, et qui décrit un univers, celui de la Gaspésie, celui des pêcheurs, qui, moi, m'est complètement étranger. Mais quand je lis Roxane Bouchard, j'ai l'impression d'y être.
Oui.
Donc ça, Michael Connelly, c'est pour sa précision. C'est un journaliste aussi. Ça se ressent, je trouve. Henning Mankell, pour ses préoccupations sociales. Henning Mankell parle beaucoup de racisme, parle beaucoup de la montée de l'extrême droite, etc., etc. Donc des univers très différents. Mais on a des bons auteurs de polar ici au Québec, de plus en plus. Moi, je fais toujours le pari qu'on est aussi bon que les Suédois. L'école, les Suédois, c'est devenu une école, le polar suédois. Je pense que ça peut devenir une école ici parce qu'on en a maintenant. Je viens de lire André Marois, La Sainte Paix, qui est toujours numéro un dans les palmarès parce que les gens
grand
adorent ce livre.
Ouais.
C'est vraiment merveilleux, ce livre-là. C'est tellement bien écrit. Puis là, j'en nomme deux, mais c'est cruel parce que j'en oublie 50 000. Mais il y a de très, très bons auteurs de polar que j'adore lire d'ici, ici. Et ça, là, c'est important. Ça s'est ressenti récemment le 12 août dernier, qui est la journée « J'achète un livre québécois ». Les gens se sont rués dans les librairies. Je suis allée dans les librairies, là. C'était plein. Ouais. Il y avait foule partout. Les gens étaient enthousiastes, achetaient des livres, des romans, pas juste des polars, de tout. Il y a, évidemment, il y a un engouement pour le polar, c'est sûr, de façon générale, mais les gens achetaient de tout, et ça, c'est formidable. Donc, je pense qu'on a des lecteurs ici, puis on a des bons auteurs de littéraire, on a des bons auteurs de littérature générale, mais on a des bons auteurs de polar ici.
Donc, Catherine Lafrance.
Bien, merci.
Alors, vous parliez de télé tantôt, de 12 chameaux à la télé qui peuvent être possibles plus dans un texte que sur petit écran, grand écran.
Oui.
Mais je me dis, c'est cinématographique, ça pourrait être aussi une excellente série télé. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là? Est-ce que vous y pensez?
Les droits du premier ont été achetés par une maison de production. Donc là, ça, c'est en discussion en ce moment. Le producteur est en train de monter son équipe. Je ne peux pas vous dire de qui il s'agit. Pour l'instant.
Un scoop à la fois.
Oui, un scoop à la fois, mais c'est parce qu'ils ne préfèrent pas, et je le comprends, parce que, évidemment, c'est tout un exercice aussi de financement, un projet télé ou au cinéma. Donc, il faut aller chercher le financement. Alors, pour le producteur, tant qu'il n'y a pas le financement, il n'ose pas trop s'en vanter. Et moi, tant que je ne le verrai pas sur un écran quelconque, je n'y croirai pas. Donc,
une autre collègue journaliste, tant que l'orignal n'est pas attaché sur le toit de l'auto, on n'en parle pas.
C'est à peu près ça.
Alors, Catherine, grand merci d'être venue en studio pour nous présenter Le Dernier Souffle et Le Plus Lourd, une autre enquête de Michel Duquesne. C'est aux éditions Druide, hein? Vous êtes fidèle à cette maison d'édition-là.
Très belle maison d'édition.
Et vous dédiez aussi votre livre aux gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, de la santé, à toutes celles qui soignent, pensent et réconfortent chaque jour. Leur travail n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur.
Tout à fait.
Merci Catherine.
Je vous
en prie. À la prochaine.
Merci de m'avoir invitée.